Voix Nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Élise Gruot rencontre Daniel Flomenbaum. Ce soir, une pilule qui n'est pas magique.
Daniel Flomenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, gynécologue, acupunctrice. Vous avez exercé toute votre vie auprès des femmes pour les accompagner du mieux possible dans leur vie sexuelle, dans leur vie de femme et de mère. Vous avez écrit un livre pour transmettre des messages importants qui ont émergé de cette expérience. Femme désirée, femme désirante. Et nous sommes ce soir pour notre deuxième entretien. Hier soir, vous avez évoqué votre enfance, votre naissance dans le maquis aveyronnais, dans ces conditions si particulières, votre petite enfance et cette découverte tôt du bénéfice du soin psychique, de votre grande sœur qui est devenue psychiatre et de votre engagement vous-même dans les études de médecine dans les années 60. Alors, vous disiez, la gynécologie s'est imposée comme une évidence. Vous avez découvert plus tard que vous poursuiviez la lignée de votre grand-mère maternelle, polonaise, qui était sage-femme. J'aimerais que vous nous décriviez plus précisément ce qu'était exercer la gynécologie avant les lois qui ont permis aux femmes de maîtriser leur grossesse, avant les lois sur la contraception et l'avortement. Les sages-femmes, on les appelait aussi les faiseuses d'anges. Quelle était la réalité de votre entrée en gynécologie ?
Alors, il est vrai que quand j'ai commencé à être gynécologue, la loi sur la libération de l'avortement n'était pas passée. Et j'étais quand même la première génération de gynécologues à pouvoir prescrire la pilule. Donc on était dans un mouvement de grande mutation. Pour moi, il était évident que l'accès à la contraception allait modifier, transformer la vie des femmes et que nous avions beaucoup de chance de pouvoir découvrir notre sexualité avant d'être mariée, de ne plus être vierge au mariage, et on était complètement naïve de croire que tout allait se passer, toute cette découverte du plaisir allait se passer avec aisance, puisque nous étions consentantes et que nous en avions le désir. Nous n'avons pas suspecté une seconde les difficultés qui allaient se témoigner dans l'histoire de notre sexualité.
Est-ce que vous avez eu vous-même, vous aviez certainement dans votre cabinet à gérer des urgences, des grossesses non désirées, avant que cette loi sur la pilule soit passée ?
Absolument. Si vous voulez, à cette époque, au planning familial, nous pratiquions des interruptions de grossesse dans l'illégalité. Un monsieur américain, monsieur Carman, avait inventé une canule en plastique qui nous permettait de faire des interruptions de grossesse en ambulatoire, sans anesthésie, et qui nécessitait bien sûr et de la compassion et de l'assistanat et toute une ambiance de confiance qui nous permettait de pratiquer ces interruptions de grossesse qui se pratiquaient au planning familial. Alors moi je parle de celui de Paris, c'était rue Vivienne encore à l'époque. Les quelques très rares dispensaires, on l'a fait aussi dans nos cabinets privé avant 75 que la loi ne passe. Et donc je répondais à la demande de ces femmes qui n'était pas en mesure d'accueillir un enfant, quelle que soit la raison. J'ai envie de dire que personnellement, j'ai arrêté de faire ces avortements illégaux le jour même où la loi est passée. En 75, c'était bien sûr une émotion. On était plusieurs, j'ai envie de dire, à se tenir les coudes et à soutenir l'intéressé. On était trois en général. Il y avait une praticienne et puis deux qui étaient autour de la femme pour lui permettre d'être dans l'accompagnement de cet épisode. Et je dois dire, alors qu'avec chance et je ne sais pas quoi d'autre, je n'ai jamais eu de problème d'urgence, de difficulté, d'interruption de grossesse qui se sont mal passées, jamais.
Oui, parce qu'évidemment, tout ce climat d'illégalité mettait les femmes dans une situation de danger au moment des interruptions de grossesse, mais heureusement, vous n'avez pas eu à gérer ce genre d'urgence.
Mais on était tranquille, on était. Et vous savez, on militait pour une cause importante. On savait que la vie n'est pas la même dans une société quand il y a un droit à une interruption volontaire de grossesse. Quand on ne peut pas accueillir un enfant à venir et que le social nous l'autorise, ça n'est pas du tout la même ambiance sociétale. Et c'est passé, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance, en 68, mon militantisme permet que ce pour quoi je me bats se témoigne. Et je dirais la même chose par rapport à 75 pour la libération de l'avortement. Donc je trouve que j'ai de la chance d'avoir eu des résultats positifs quant à mon militantisme.
Et du coup, à partir de cette loi qui libéralise la pilule, qui autorise les interruptions volontaires de grossesse, votre métier, votre pratique de gynécologue change complètement. Vous pouvez prescrire la pilule, c'est la première fois dans l'histoire. Et du coup, la relation à vos patientes change elle aussi. Et le type de discussion, d'échange que vous pouvez avoir avec elle, comment s'installe la parole à ce moment-là? Qu'est-ce qui change dans votre relation aux femmes?
Si vous voulez, à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas, à partir du moment où l'interruption de grossesse a été autorisée, il y avait, après l'interruption de grossesse, dans les 15 jours qui suivaient, un contrôle pour voir... Pour constater si tout allait bien, bien sûr, physiquement. Et il m'importait de demander aux femmes comment elles allaient. Et si vous voulez, au fil des temps, c'est comme ça que j'ai compris que ces femmes répétaient l'histoire des femmes de leur famille. Au fil des temps, et alors ça c'est pas seulement par rapport à l'interruption de grossesse, ça c'est par rapport à ma pratique de gynécologue, quand une maladie se répète, quand elle récidive, tous les troubles qui reviennent...
Toutes les pathologies du corps féminin, de la sexualité féminine, c'est ça dont vous parlez?
De la sexualité et de la pathologie, toute pathologie qui récidive, qui revient... sous le même style ou avec des variants, témoigne d'une symptomatologie qui essaye de dire quelque chose. Pour moi, il est important de pouvoir donner un sens à ce qui nous arrive. Et je demandais à ces femmes, mais est-ce que c'est arrivé dans votre enfance, puisque moi je faisais déjà une psychanalyse, alors je savais que les troubles déjà pouvaient émerger, rappeler une émergence de l'enfance. Et puis je demandais, mais est-ce que des gens de votre famille ont été atteints ou ont été concernés? Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, je me suis mis à saisir que l'expression pathologique d'un événement se transmettait d'une génération à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'on appelle maintenant la transmission transgénérationnelle, de traumatismes cachés, de secrets, d'événements méconnus, hein, que l'on porte en soi et qui nous agissent. C'est tout à fait l'occasion de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que cette vie de femme, qu'est-ce que c'est que cette vie de mère, puisque la contraception met en exergue que c'était pas la même chose. Avant, on savait pas que c'était pas la même chose d'être une mère ou d'être une femme. C'est la contraception qui met complètement en évidence que on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas la même émotion, on n'a pas la même pensée. Quand on s'occupe d'un enfant ou quand on fait l'amour avec l'homme qu'on a choisi, on n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes espaces-temps. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la contraception qui nous permet de découvrir ça, à savoir que cette sexualité, elle est double, elle est et au service de la reproduction, hein, et de la succession des générations, et elle est au service du plaisir et de l'entretien de la santé. Donc, si vous voulez, ces consultations deviennent l'occasion de découvrir aussi tout ça. Vous savez, j'étais jeune et je découvrais aussi ma vie de femme qui n'avait rien de d'exceptionnel et de facilité.
Dans ces années-là, vous avez épousé votre premier mari, dans les années 70.
Absolument. Et on était complètement... Nous, on était dynamiques, on était vivants, on était militants, on voyageait, on découvrait le monde. Mais on avait quand même des difficultés incroyables à se retrouver dans notre sexualité, à se découvrir. Moi, je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait, et lui non plus. Alors comme ça, on était bien avancés.
Est-ce que vous avez conscience de ces difficultés ?
Mais pas du tout. Moi, j'étais amoureuse, j'aimais cet homme... Mon cœur était ouvert et on était content d'être dans le partage, on était content d'être dans la... On commençait à savoir qu'il fallait sortir du mutisme de nos parents. On commençait à réaliser qu'il fallait se mettre à parler de soi pour se découvrir, pour se parler, pour se comprendre. La parole de l'intime est préconisée. La liberté aussi de penser et même de vivre cette sexualité est préconisée, puisque c'est la confiance de la parole qui fait foi. Mais nous avions des prétentions de nous réaliser et d'être moins enfermés dans notre tour d'ivoire, chacun de notre côté comme l'étaient nos parents. On avait des prétentions d'ouverture, de dialogue, d'échange. Et je veux dire, c'était très efficace pour les progrès de la parentalité. C'est à cette époque, je veux dire, la parentalité a une histoire plus ancienne que la rencontre d'un homme et d'une femme au niveau de la société. Et donc, la parentalité fait des pas de géant. Cet enfant, le bébé est une personne, c'est à cette époque.
Hein, cette émission de Françoise Dolto, Le bébé est une personne.
Qui a été la raison pour laquelle j'ai acheté ma première télévision. J'ai eu envie, j'en avais marre d'aller chez les copains pour voir cette émission, et j'ai osé m'acheter une télévision pour voir Le bébé est une personne.
Et Daniel Flomenboim, rappelons un peu ce que c'était que cette émission, parce que c'est un jalon très important de l'histoire de la parentalité.
On découvre que le bébé, avant de savoir parler, est un être qui comprend, qui entend, il comprend pas forcément le sens, mais il entend. Le bébé est une personne parce que tout est langage et qu'on se met à pouvoir parler à l'enfant. Avant, il était plus considéré comme un tube digestif, qu'il fallait nourrir, il fallait qu'il soit propre. On n'avait pas la notion que cet enfant baignait d'emblée dans un bain de langage de la famille qui l'accueillait, et que c'était ça qui commençait sa construction et sa formation et sa transmission. Alors on découvre des choses incroyables, on découvre par l'échographie que le bébé avale le liquide amniotique et urine dans le ventre de sa mère, et il peut mettre son pouce dans la bouche. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des révélations excessivement importantes, hein, parce qu'avant, on pensait que le pouce n'était qu'un rappel du sein, et puis si on sait que le fœtus, déjà, il se met le pouce dans la bouche, on voit bien que la construction sexuelle commence à l'état fœtal. Et puis le fait, voilà, d'avaler, d'être gorgé de saveurs, d'odeurs, par ce liquide amniotique et d'uriner. Et quand le petit fœtus mâle urine, il peut avoir une érection. Et donc ça le fait comme un petit cosmonaute, là, qui s'envoie en l'air.
Il est propulsé dans le ventre maternel.
Mais oui, et donc ça, c'est... Alors, si on s'envoie en l'air, ça rappelle, bien sûr, toutes les sensations qui peuvent faire référence à l'orgasme. Donc, si vous voulez, alors, il y a cette échographie, il y a le fait qu'on se met à parler aux enfants, et du coup, les parents prennent conscience que c'est important de parler entre eux de leur enfant. Ben c'est Dolto qui passe sur les ondes. Françoise Dolto parle tous les jours à France Inter. Elle crée les Maisons Vertes, qui sont des lieux où des psychanalystes d'enfants sont présents, des bénévoles ou pas, des jeunes. On accueille les enfants.
Et leurs parents ?
Les parents viennent avec leurs enfants, c'est souvent plus les mères. Et les mères peuvent et parler entre elles, et s'adresser au personnel d'accueil, et parler avec un psychanalyste. Une jeune me racontait, une femme lui avait dit « Mais est-ce que c'est normal que j'ai envie de tuer mon enfant ?» Et l'autre lui dit « Oui ». Ben, c'est vrai que cette réponse, tout de suite, la soulage. Ça veut dire que Françoise Dolto a vraiment mis en exergue l'encombrement du maternel. Comment le maternel pouvait être encombrant pour l'enfant, puisque on a tendance à penser que ce maternel est tout bon, tout amour, toute générosité, ben, ce qu'il doit être, hein, tout assistana. Mais les déviances du maternel sont tout à fait importantes dans le fait d'empêcher l'enfant de grandir et de se développer. Il y a du trop de mère et pas assez de père. Et ça va être de l'encombrement pour le développement de l'enfant. Donc moi, je suis passionnée par tout ce qui se passe, et je suis aussi très intéressée par ce qui se passe et ce qui se passe pas dans ma vie personnelle de femme, où j'ai un compagnon que je rencontre un peu plus tard dans ma vie et où on s'est engagé à faire quand même le maximum pour y arriver ensemble, puisqu'on on décide de fonder une famille, d'avoir des enfants et qu'on aimerait bien arrêter de se casser la figure dans nos, comme on l'a fait dans nos différentes histoires d'amour précédentes.
Parce que vous avez divorcé de votre premier mari et là vous évoquez votre deuxième mari.
Voilà,
Didier Dumas.
Voilà, je parle de Didier Dumas, le père de mes enfants que j'ai rencontré en 75.
Et vous évoquiez avec ce premier mari le fait que vous étiez dans une grande communauté d'engagement, d'enthousiasme pour votre époque et ce qui s'y passait, et dans votre engagement aussi de jeune médecin, militant, que vous aviez découvert les bienfaits de la parole, la nécessité de la parole, mais par contre que vous étiez ignorant de vos difficultés sexuelles.
C'est ça.
Et ce moment, ça coïncide aussi avec la libéralisation de la pilule. Et donc, dans votre cabinet, viennent des femmes qui prennent l'occasion d'une parole, aussi d'un échange de parole avec vous, sur leur vécu de femme, de mère, d'épouse, leur vécu de sexualité.
Et de femmes qui se mettent à travailler.
Et de femmes qui travaillent.
Hein, souvent, leur mère
et cette pilule.
Une révolution totale.
Ouais. Et cette pilule n'a pas non plus été une pilule magique en ce qui concerne la sexualité des femmes. Cette période de libération sexuelle, c'est le droit de ne pas avoir un enfant non désiré. Cependant, la révolution sexuelle est inachevée.
Ça veut dire qu'elle se passe dans les années à venir, hein. les années 70, dans les années qui suivent, les années 70, les années 80.
J'aimerais que vous évoquiez ces pathologies que vous découvrez auprès des femmes qui viennent vous consulter, et comment petit à petit vous remarquez des récurrences, et comment ça entre dans une réflexion psychologique aussi.
Alors je vous l'ai dit, moi j'avais démarré une psychanalyse. Donc si vous voulez, j'avais comme outil la psychanalyse qui me permettait de comprendre qu'un grand nombre de troubles qui empêchait de vivre une sexualité épanouie était liée à une non-autorisation familiale, personnelle, à oser vivre et découvrir le plaisir et la jouissance. Ça, je l'avais compris dans ma psychanalyse, mais les femmes, je ne savais pas leur expliquer ce qui leur arrivait, j'ai envie de dire, pour qu'elles comprennent vraiment. Si vous voulez, la psychanalyse ne m'a pas permis de me faire comprendre par rapport à toute une pathologie d'inflammation, de douleur, d'embûches douloureuses, d'embûches fatigantes, mais d'embûches en fait qui sont, si vous voulez, c'est comme si effectivement la contraception est là pour l'autorisation de la découverte d'une sexualité référée au plaisir, pour le fait de, c'est une fête, c'est pour pouvoir se sentir mieux dans sa peau, pour pouvoir se sentir dans sa peau d'individu sexué. Et les embûches sont là, mais c'est bien plus tard que j'ai réalisé, que j'ai compris, que j'ai pu faire une synthèse des pathologies, des inhibitions, des interdits moraux, sociaux. Je balbutiais aussi en même temps que mes clientes et la découverte de ma propre vie. C'est pour ça que je vous dis que j'ai la chance de rencontrer un homme qui me dit mais que ça va pas pour lui, qu'il n'a pas de femme. Et je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Je suis bien sûr blessée. Moi, je suis tellement amoureuse, cet homme que j'ai fait père, il m'a fait mère. Et il me raconte qu'il n'a pas de femme. Je mets très longtemps à comprendre ce qu'il veut dire. Et j'ai la chance, à ce moment-là, de découvrir la médecine chinoise, d'apprendre et de découvrir une autre culture, une autre philosophie. Je découvre la philosophie taoïste. Alors là, c'est comme si je me mettais à entendre ce que j'aurais aimé entendre à la faculté de médecine sur la santé, sur la maladie, sur le soin. J'entends que la vie est une réalisation et qu'il est question de se prendre en main pour pouvoir accomplir sa vie. J'apprends que cette médecine est basée sur la notion de souffle de vie qui a été divulgué en Occident par les arts martiaux et le yoga, hein, cette notion de chi, cette notion d'énergie, où c'est le souffle qui nous parcourt de notre naissance à notre mort, qui nous fait vivants. Et c'est celui-là qui anime notre corps physique. Donc, je découvre la notion énergétique de la vie, qui est la notion où l'on ressent des sensations. Hein, comme quand on prend un bain de soleil, hein, le bienfait d'accueillir cette chaleur et qui gonfle en quelque sorte notre corps physique, c'est ça qui s'appelle accueillir de l'énergie nouvelle. Et je me rends compte que ces gens, les textes taoïstes, ont parlé de sexualité alchimique, où la sexualité est une hygiène de vie qui entretient la santé et qui chasse les maladies. Alors vous pensez bien,
ça, c'est une révolution.
Pour la gynécologue que j'étais, j'étais dans un état de grande recherche et d'enthousiasme pour saisir comment on faisait pour chasser les maladies en entretenant sa santé. Et ça s'appelle cueillir le remède. Et j'ai la chance de lire ces textes, de faire à peu près tout ce qu'il raconte et de découvrir pour moi les bienfaits d'une sexualité qui sait se vivre dans le partage. Et comme ces bienfaits ont changé ma vie, eh ben je continue à être avec vous aujourd'hui.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruot avec Daniel Flomenbaum. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.